Radio Kapi. Oh,
Kapi. À Pascal Masseri Kabissimo, à la présentation de votre journal.
Les titres de l'actualité, une trentaine de civils tués, 500 maisons incendiées, bilan des affrontements de 3 jours entre miliciens de la Codeco et ceux du FRPI en Ituri. La société civile locale appelle à l'aide des victimes qui vivent dans des conditions précaires. Fermeture de la morgue de l'hôpital Sendoué, c'est suite à une panne survenue au compresseur de la chambre froide. Du coup, les habitants de la ville de Lubumbashi conduisent désormais leurs corps des défunts dans d'autres morgues de la ville. Notre invité, c'est le directeur chargé de la formation à Africa Medical Supply Oxygen. Andrew Johnston assure que les provinces de l'Omami et du Kasaï Oriental seront bientôt dotées d'unités de production d'oxygène médical. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, d'abord, sachez qu'une réunion entre le gouvernement congolais et la délégation de la communauté d'Afrique de l'Est-Est vient de se tenir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, ici à Kinshasa. Le gouvernement congolais a été représenté notamment par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la décentralisation et intégration régionale, le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, le vice-ministre de la Défense nationale ainsi que le haut représentant du chef de l'État. Et du côté de l'EAC, la délégation a été conduite par son secrétaire général. Selon le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Apala, le ministère congolais des Affaires étrangères s'était rencontré à porter, entre autres, sur les suivis du processus de paix de Nairobi, mais également sur la question de la force régionale de l'EAC et qui opère dans l'est de la RDC. Tous leurs échanges ont consisté à trouver des pistes et des solutions pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays et le retour des déplacés dans leur milieu, affirme-t-il. Vous aurez d'autres détails dans nos prochaines éditions d'information. Une trentaine de civils tués et environ 500 maisons incendiées. Bilan des affrontements survenus en 3 jours entre des miliciens de la Codeco et ceux du FRPI dans les territoires du Rumo en Ituri. Selon la société civile locale, des centaines de victimes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le récit d'Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire restait préoccupante dans une grande partie de la chefferie de Baboua Boko et celle de Babelebe, où des violents combats ont opposé la semaine dernière des éléments incontrôlés des deux groupes armés FPIC et Codeco au sud du territoire d'Irumu. C'est par exemple dans les villages Tchekeleke, Kunda, Magalagbo, Bodu, Beyabo, Sumbabo, Matumaini, Kisiga et Sulasula. D'après la société civile locale, 30 personnes ont perdu la vie et plus de 500 maisons incendiées et 2 centres de santé vandalisés par les belligérants. Au moins 1000 familles sont en déplacement vers Kunda, Mwanga, Walu, Babukela et Balazana. Certains passent nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries. D'autres sont hébergés dans des familles d'accueil dépourvues des besoins essentiels, indique Gili Gotabo, son président.
Notre paisible population, leurs maisons sont incendiées. Nous demandons aux organisations humanitaires puissent doter notre paisible population, même des bâches où peuvent construire des abris pour passer la nuit.
Des notables du milieu ainsi que les élus de ces territoires condamnent ces attaques contre les civils. Ils demandent au gouvernement provincial d'imposer l'autorité de l'État dans cette région en vue de contraindre les groupes armés rebelles au processus de paix en province de déposer les armes.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
10 enfants sont déjà identifiés parmi une centaine de miliciens de la Codeco et du FRPI hébergés depuis une semaine au site de désarmement des Diango, situé à 15 kilomètres de la ville de Bounia. Le chef de la section de la protection de l'enfance de l'UNE, la MONUSCO, affirme que ces ex-enfants soldats sont mis actuellement à la disposition de l'UNICEF pour leur réinsertion sociale. Jean Mouzalia le dit à Isaac Remoyope.
Il y a eu un total de 101 éléments. La section protection de l'enfant ainsi que les partenaires, nous avons séparé 10 enfants, 9 garçons et une fille. Nous les remettons entre les mains de l'UNICEF pour leur prise en charge. Certains peuvent aller dans des familles d'accueil en attendant leur réinsertion ou réunification familiale. Certains peuvent aller dans des centres transitoires d'accueil où il y a des encadreurs, où il y a des psychologues, parce que les enfants ne peuvent pas rentrer vraiment comme ça après qu'ils aient subi tous les traumatismes de guerre, parce que ce sont des enfants qui ont participé, assisté à des exactions qui ont touché à l'arme. Nous avons aussi, en tant que MONUSCO Protection de l'Enfant, des projets sévères. Cette année, nous avons un projet sévère qui prendra moins de 200 enfants. Ils vont être formés d'une initiation à l'apprentissage au métier. Il y a 6 ou 7 filières qui leur sont données selon leurs demandes. Et à la fin du projet, ils seront regroupés sous forme de coopérative. Avec tout ce qu'on a acheté comme intrant, on va leur remettre pour qu'ils continuent dans leur insertion social.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. À Lubumbashi, la morgue de l'hôpital Sendwe est fermée suite à une panne survenue au compresseur de la chambre froide. Du coup, les habitants de la ville sont appelés à amener les corps de leurs défunts dans d'autres morgues. Des précisions avec le chef de l'administration générale de la ville, Cyril Mouladji, est au micro de Jean Gandou.
Le compresseur de la chambre froide est foutu. Nous avions beaucoup de corps, vous savez vous-même, chaque fois vous suivez des communiqués, nous avons ramassé des corps. Il y a eu des corps qui ont fait presque une année à la morgue Sendwe et les membres de la famille ne sont jamais présentés. Il y a eu à peu près 44 corps que nous avons eu à enterrer après que nous ayons obtenu les avis du service judiciaire compétent. Il fallait d'abord qu'on dégage les corps qui étaient là, vraiment en décomposition totale. On est en train de voir comment essayer de repeindre à l'intérieur parce qu'il y a des odeurs, de voir comment les gens qui doivent travailler dedans ne puissent pas tomber aussi malades. Présentement là, l'actuel maire a déjà acheté les nécessaires pour réparer cette morgue.
Où est-ce que les gens peuvent amener les corps de leurs membres décédés?
La commune de Lubumbashi a une morgue quartier Mampala. Il y a la morgue Akika à La Roche. Il y a la morgue Inaza à La Roche. Maternité Katuba, il y a une morgue. À la Kenya, il y a une morgue au centre de dépistage. En dehors des morgues privées, pour ceux-là qui ont organisé des pompes funèbres.
Santé encore au Nord Kivu, la sous-coordination du programme national de lutte contre le sida à Beni, Butembo et Lubero fait état du nombre élevé d'infections au VIH-Sida depuis quelques mois dans cette zone. À la base, selon le responsable de ce programme, la rupture de stock de préservatifs par le Fonds mondial, Nikes Maté, le dit à Guylaine Kassassia.
La situation du sida est en train de changer. Nous avions pensé pouvoir stabiliser parce que jusque-là, sur le plan national, nous avons une prévalence de 1,2%. Mais on a remarqué que les deux derniers trimestres de 2022, nous sommes en train d'enregistrer des positivités au niveau de notre sous-coordination qui sont au-delà de la prévalence du niveau national. Par exemple, au quatrième trimestre, nous avions 1,8%. Nous avons constaté que les mécanismes qui étaient supposés stabiliser est en train d'être débordé. Il y a deux ans, déjà que les préservatifs qu'on nous approvisionnait, la quantité n'est pas suffisante. Et même le dernier approvisionnement, il n'y avait pratiquement pas de préservatifs. Et pourtant, nous sommes dans une région de turbulence. Tous les mouvements de guerre au niveau du territoire de Beni, au niveau du territoire de Lubero, poussent la population à venir s'entasser dans la ville de Beni et de Butembo. Et c'est ainsi que ce sont les deux zones de santé qui ont affiché des chiffres assez inquiétants. C'est pour cela que les cris de détresse que nous sommes en train de lancer, c'est pour solliciter s'il peut y avoir une autre organisation pour pouvoir subvenir au gap que nous sommes en train d'enregistrer.
Revenons ici à Kinshasa où l'université Simo Kimbangu a organisé ce jeudi une matinée scientifique sur la formation en santé publique. De nombreux orateurs du jour ont affirmé que la santé publique reste actuellement l'un des moyens pour faciliter l'accès aux soins de qualité à la classe moyenne en RDC. Le compte-rendu de Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son mot de circonstance, le recteur de l'université Simo Kimbangu, professeur Blaise Mouya, a fait savoir que la santé publique est une nécessité capable de répondre aux attentes et défis de la société congolaise. Il est persuadé que cette branche de la médecine permet aux Congolais de faire face aux multiples épidémies, dont la Covid et autres.
Certaines maladies incurables dans le monde, si l'on peut évoquer le cas du VIH, du sida, du diabète et consorts, nécessitent des méthodes de prévention prévention et qui implique la formation des experts en santé publique. Les motivations qui nous ont, certes, poussé d'insérer la faculté de santé publique dans cette alma mater et de trouver des solutions aux problèmes qui rongent la société.
Les doyens de la faculté de santé publique à l'université Simon Kimbangu a indiqué que la santé publique a pour mission d'agir sur tout ce qui influe directement ou indirectement sur la santé de la population. Pour sa part, professeur Nadège Ngombe, représentante du ministre de l'ESU, a invité les étudiants et a opté pour la faculté de santé publique de travailler pour le bien-être de la communauté. Cette matinée a réuni plus de 100 personnes, dont les étudiants de la faculté de santé publique, ainsi que les personnels académiques et scientifiques du monde universitaire.
Dans l'actualité, il y a également la montée ce jour-ci du prix du carburant dans la commune rurale de Salamabila dans la province du Maniema. Le président de la société civile locale affirme qu'un litre d'essence est passé de 5 000 à 9 000 voire 10 000 francs congolais. À la base, selon Saïdi Vumba, l'impraticabilité de la route qui va d'Ouvira à Salamabila, il a été joint par Florence Kizalunga.
Il est vrai que un litre d'essence qui se vendait à Salamabila à 5 000 francs revient aujourd'hui à 10 000 francs. Donc, allez-y comprendre que cette hausse de prix est justifiée par l'état de délabrement avancé de la route qui mène vers Ouvira. Parce que, il faut que je signale l'opinion que c'est Ouvira qui est la source d'approvisionnement de carburant. Maintenant, Ouvira-Salamabila, totalement, donc, impraticable. La route est devenue impraticable. Même quand vous quittez Salamabila vers Kasongo. Nous avons un engin très difficile par rapport à l'état de la route. Donc, nos routes se sont détériorées. Il n'y a plus la route ici chez nous. Voilà au moins la conséquence qui justifie cette hausse de prix parce que les opérateurs économiques ne savent plus évacuer les marchandises, donc les carburants, de Ouvira Bukavu jusqu'ici à Salamabila. Il n'y a pas que des lubrifiants. Dans les marchés là-bas, tout a galopé parce que il ne reste qu'un seul moyen d'approvisionnement, c'est la voie aérienne. Allez-y comprendre avec les compagnies aériennes ici. On vous taxe par kilo. Un kilo revient à 2,9 vers 3 dollars. Ce qui n'est pas facile à supporter pour tout opérateur économique. Voilà au moins les conséquences que nous sommes en train de subir. Les autorités provinciales doivent prendre les choses en main. C'est pas comme ça que la province doit exister.
Politique à présent. Les activités sont actuellement paralysées à l'Assemblée provinciale du Kwilu où aucune plénière ne s'est tenue depuis mars dernier. Le calendrier de la session n'a pas été adopté et tout tourne au ralenti. Le premier vice-président de la société civile Placide Moukoua exhorte tous les députés provinciaux du Kwilu au respect de leurs engagements. À Bandundouville, Irène Boma.
À la dernière plénière, convoquée mardi dernier par exemple, 14 députés seulement ont répondu présents au rendez-vous sur les 48 que compte l'organe délibérant du Kwilu. À la suite des absences non justifiées des élites du peuple, cette plénière a aussi loupé faute de quorum des décisions. Préoccupé par ce constat malheureux qui n'est pas le premier vice-président de la société civile du Kwilu, Placide Moukoua, s'exprime en ces mots.
Malheureusement, on devient habitué avec cette mauvaise habitude. Les députés sèchent les plénières. Cette fois ici encore, les mêmes constats. Depuis l'ouverture jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune plénière parce que le quorum n'est toujours pas atteint. Les députés doivent nous donner le reste des 10 avant la fin de cette législature ici.
Dès son retour mercredi à Bandundu, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, a appelé les députés à regagner la ville pour travailler.
Je suis venu pour que nous puissions travailler d'arrache. Sur ce, je lance un appel à tous les honorables députés de regagner vite la ville de Bandundu pour travailler.
Pour Placide Moukoua, la population qui observe les comportements des députés est avisée et fera les bons choix lors des échéances électorales prochaines. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
7e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Papa Wemba, c'était hier mercredi à Kinshasa. Plusieurs activités ont eu lieu depuis le début de la semaine, notamment au quartier Matongé dans la commune de Kalamu, siège du village Molokai. Pour mémoire, Chungu Wemba Dio, de son vrai nom, est décédé le 24 avril 2016 en plein concert à Abidjan en Côte d'Ivoire. Reportage de Sam Badimouke.
Des pots de gerbes de fleurs sur la tombe du défunt, des fileux de sapeurs, concerts musicaux sont parmi les activités prévues pour marquer le 7e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Au couloir Madiakoko à Matongé, outre la musique, un podium a été érigé à cette occasion. Des tentes avec deux chaises multicolores et d'autres kiosques proposent nourriture et boissons. Beaucoup de fans de Papa Wemba se rendent cette semaine pour partager les souvenirs écouter ensemble ces chansons et assister au spectacle. Plusieurs personnes rencontrées sur place affirment garder encore en mémoire de bons souvenirs de vieux Bokul, comme elle l'appelait affectueusement. Les jours que je vais mourir, vous serez loin de moi. Quand il est mort, alors nous avons compris pendant ses obsèques au palais du peuple, nous étions loin de lui. Nous l'avons jamais vu. Normalement, c'était prévu pour 2 semaines. Comme elle a débuté en retard, je ne sais pas si la date sera prolongée. Pendant 1 semaine, les Kinois pourront rendre hommage au roi de la rumba congolaise.
Actualité internationale.
Plus de 14 000 réfugiés soudanais ont traversé la frontière égyptienne depuis que des combats meurtriers ont éclaté dans leur pays à la mi-avril, a annoncé ce jeudi après-midi le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le ministère égyptien des Affaires étrangères affirme que plus de 16 000 étrangers sont entrés en Égypte depuis l'éclatement du conflit entre l'armée nationale et les forces de soutien rapide paramilitaires, dont 2 000 ressortissants et 50 autres pays ou membres d'organisations internationales. Et puis les États-Unis d'Amérique vont ouvrir bientôt des centres régionaux de gestion administrative des migrants en Colombie et au Guatemala afin de renforcer davantage la lutte contre l'immigration illégale. Un haut responsable américain qui annonce la nouvelle ce jeudi après-midi indique que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une volonté de faciliter une immigration aux États-Unis qui soit sûre, humaine et ordonnée.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur chargé de la formation à Africa Medical Supply Oxygen. Andrew Johnstone assure que les provinces de l'Omami et du Kasaï Oriental seront bientôt dotées d'unités de production d'oxygène médical. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Monsieur Andrew Johnstone.
Bonjour.
Vous vous retrouvez en Mbujimayi. Quel est le but de votre mission ici en Mbujimayi au Kasaï Oriental?
Merci beaucoup. Donc Biashi est une organisation qui travaille dans l'infrastructure de santé pour les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques. Je suis ici avec mon collègue Kevin Ndeti, un ingénieur électricien. Et nous sommes aussi appuyés par l'État, par le ministère de santé, avec ingénieur Dapner Zino qui est avec nous. Notre mission, nous sommes dans l'équipe Oxygène Médical à Biashi, c'est une mission d'évaluation pré-installation ici à Kasaï Oriental et aussi à Lomami.
Combien d'unités de production d'oxygène seront installées dans les provinces de Lomami et Kasaï Oriental?
À Kasaï Oriental, nous avons allé à HCR de la Mouya pour l'évaluation pré-installation pour mesurer le besoin d'oxygène et aussi HCR Cabinda. Nous sommes ici pour appuyer le processus du ministère et du Fonds mondial d'acheter les nouvelles usines PSA. Et nous voulons assurer que l'usine est de bonne taille, des bonnes spécifications et que l'installation soit une réussite.
Quelle est l'importance d'une unité d'oxygène?
Ça, c'est très, très important pour la santé, pour la prise en charge de beaucoup de maladies. Oxygène est un médicament essentiel. On ne peut pas remplacer avec une autre chose. C'est vraiment essentiel pour les soins intensifs, l'urgence, le COVID, la maternité et à côté pédiatrie aussi et pour les néonates. C'est vraiment essentiel et ça sauve les vies. Donc c'est pourquoi nous travaillons sur ça. Kevin et moi étions aussi en RDC l'année dernière pour 1 mois et nous avons fait une évaluation à ce moment de 7 hôpitaux à 6 villes pour le même aspect de travail.
Quelle sera la capacité de production de chaque usine de production d'oxygène?
Ça dépend de la taille de l'usine, mais probablement pour Mbujimayi, ça sera une usine de 26 mètres carrés par heure de production d'oxygène. Ça sera une assez grande usine parce qu'on veut appuyer l'hôpital, mais aussi on veut avoir une situation où l'usine peut partager les bonbons aux autres hôpitaux et centres de santé.
Qui finance les travaux?
Le travail est financé par Fonds mondial. C'est toujours un processus. Donc, il y a les partenaires comme Fonds mondial qui sont en train d'aider avec l'achat des usines d'oxygène, et aussi Chai, et aussi Banque mondiale et les autres partenaires.
Combien de temps va prendre l'installation?
L'installation, si Si tout est bien organisé, l'installation peut aller très vite. Probablement, par ici, ça sera les usines containerisées. Il faut renforcer le système d'électricité de l'hôpital. Il faut mettre une dalle et un tiroir. Mais l'installation, ça peut prendre c'est quelques jours de faire le processus d'installation. Mais il faut aussi toujours fabriquer l'usine et envoyer ça sur site. Mais on veut que ça, les usines soient installées cette année. On veut qu'ils viennent aussitôt que possible parce que vraiment ça sauve les vies.
Vous avez visité l'hôpital Bonzola, vous avez visité l'hôpital de la Mouya. Est-ce que vous estimez que ce sont de bons endroits pour installer ces usines?
Bien sûr. Donc l'année dernière, nous avons visité Bonzola et de Pumba et cette année, l'hôpital de la Mouya et aussi Haché et Arcabinda. Ils sont tous les bons endroits pour les usines et c'est très important.
Monsieur Andro, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur chargé de la formation à Africa Medical Supply Oxygen, Andrew Johnstone, a assuré que les provinces de l'Omami et du Kasaï Oriental seront bientôt dotées d'unités de production d'oxygène. Il s'entretenait avec Esther Ndalafina et c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Richard Junior Kamunga sous la supervision éditoriale de Pelle Kipelamondo.